Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à tous, heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous accueillir à J-3 de la dernière d'On est fait pour s'entendre. Merci d'ailleurs pour tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook. Évidemment, tous vos mots nous touchent. Vendredi sera assurément un moment de joie et puis de nostalgie déjà. Mais à ceux qui s'interrogent sur la suite, rassurez-vous, nous nous retrouverons dès le 23 août sur RTL pour une toute nouvelle émission baptisée Jour J. Et chic alors, on passera nos débuts de soirée ensemble car l'émission sera diffusée de 20h à 21h et nous, on se réjouit. Aujourd'hui, nous allons donner la parole, je vous le disais, à ceux qui ont dû mener l'enquête sur leur propre existence. Selon l'adage, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Mais quand on a été adopté, a-t-on toujours besoin de connaître ses origines pour se construire, trouver sa place, s'épanouir et avancer dans la vie? La recherche des parents biologiques est-elle un chemin de croix? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se joue si on a la chance de les retrouver et de pouvoir leur attribuer un nom et enfin un visage? On en parle avec notre invité que j'accueillerai dans un instant. Mais pour l'heure, c'est Claire Astrid qui nous rejoint sur l'antenne d'RTL. Bonjour Claire Astrid.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder du temps cet après-midi sur RTL. Claire Astrid, est-ce qu'on a besoin à un moment donné de savoir d'où l'on vient pour se sentir complet?
Pour ma part, oui. Ça a été un élément important dans ma vie à partir du moment où j'ai eu mes deux enfants.
Ouais. C'est vrai que quand on devient maman, tout à coup, on a peut-être besoin aussi d'offrir à nos enfants une part d'une histoire qui nous aura échappé. En tout cas, c'est votre cas. Est-ce que vous saviez d'où vous veniez avant d'entamer vos recherches?
Oui, grâce au papier qu'on avait au niveau de l'adoption, je savais la ville de notre naissance. Et le prénom et nom de notre maman biologique.
D'accord. Donc vous veniez donc de Colombie, ça vous le saviez. Quand vous dites nous, c'est que vous avez été adoptée à l'âge de 5 ans avec votre petit frère.
Hein, c'est ça, tout à fait, oui.
Qui s'appelle Thomas.
Thomas, oui.
Très bien. Alors, vous décidez un jour, alors que vous êtes maman, d'entamer des recherches. Comment est-ce que votre famille adoptive a pris la nouvelle?
Au tout début, il y a eu beaucoup de peur. Surtout ma maman, parce que par rapport à ce qu'on peut entendre de la Colombie et surtout la peur de me perdre ou de rencontrer de mauvaises personnes ouais. sur notre chemin.
D'accord. Donc, elle avait peur aussi peut-être d'être un petit peu dépossédée?
C'est ça. Oui,
c'est pas facile. Hein. Ouais. Vous lui avez tout de suite parlé de votre projet?
Pas tout de suite. J'ai attendu d'avoir quelques réponses. C'est à quelques recherches et après, de toute façon, il fallait aller à l'évidence et lui expliquer le pourquoi de notre lancement, oui. Donc, rapidement quand même.
Comment est-ce que vous lui avez annoncé alors?
Quand j'ai annoncé, à quel moment je me rappelle, à vrai dire, j'ai eu des phases super difficiles. Pareil, en fait, c'est aussi la naissance et les décès qui ont fait vraiment le gros déclenchement.
Ouais.
De toutes ces démarches. Et un jour, je lui ai dit, maman, je comprends pas. J'ai tout pour être heureuse. J'ai une maison, enfin, j'ai des enfants, une maison, un travail. Je suis en santé, mais au fond de moi, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et je crois que j'ai besoin de savoir d'où je viens, de retourner en Colombie et que c'est un manque, que je pense que cette recherche me fera du bien.
Vos enfants, vous avez fait des petits blonds dîners, c'est ça?
C'est ça, oui.
Alors, est-ce que c'est ça aussi qui vous a fait vous poser des questions? Parce qu'en fait, vous-même, vous avez donc un type colombien, je dirais, hein, vous êtes brune. Oui. Votre mari ou le papa de vos enfants est lui-même brun et vous nous avez fait des petits blonds dîners. Donc là, vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être des origines là que j'ignore et il va falloir que je mène un peu l'enquête.
Ah bah totalement, pour moi c'était tellement évident, j'allais avoir des petits métis ou des petits bruns que enfin, jamais de la vie je m'étais imaginé avoir des enfants blonds.
Ouais.
Et encore moins mon premier un enfant blond aux yeux bleus.
Ah, tu m'étonnes.
Parce que pour moi les Colombiens ils sont hyper typés et ouais. non, je me suis fait soit on m'a menti, soit on m'a volé, je sais pas, mais.
En tout cas, il s'est passé quelque chose et vous avez eu besoin de savoir quoi. Quelles étaient les informations dont vous disposiez? Donc, vous veniez de Colombie, vous aviez le prénom de votre maman. Est-ce que vous connaissiez les conditions du fait que vous ayez une petite fille offerte à l'adoption?
Alors oui, dans le dossier d'adoption, c'était indiqué comme quoi notre maman nous a eu très jeune.
Ouais.
Et que pour le coup, elle pouvait pas s'occuper de nous. Donc c'était les seuls éléments qu'on avait.
Oui, donc vous n'aviez vraiment pas grand-chose, quoi.
Non.
Thomas est parti avec vous ?
Oui, oui, il m'a suivi dans ce projet, mais plus je t'accompagne parce que t'es ma sœur et que j'aime voyager, mais pas dans l'optique de rechercher son identité, enfin sa famille biologique.
Comment vous sentiez-vous quand vous avez pris l'avion pour partir en Colombie ?
Je m'en souviens, on s'est assis dans l'avion et mon frère il m'a dit, tu te rends compte que ça se trouve au retour de ce voyage, on va être transformé, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc il y avait beaucoup d'appréhension et de stress, mais beaucoup d'excitation aussi.
Dans un instant, on va se retrouver sur l'antenne d'RTL. Claire Astrid, vous allez nous expliquer comment vous avez rencontré votre mère biologique, ce que vous avez appris et à quel point effectivement aujourd'hui c'est important pour vous. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 sur l'antenne d'RTL et aujourd'hui nous parlons de notre quête parfois d'une vie pour certains, celle de connaître nos origines. Avons-nous besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où aller? On en parle avec vous sur l'antenne d'RTL. Claire Astrid, vous venez de nous expliquer que vous avez grandi longtemps, hein, vous avez même été mariée et c'est à l'arrivée de vos enfants que vous avez décidé de partir à la recherche de vos origines. Vous saviez donc, vous aviez grandi en sachant que vous veniez de Colombie avec votre petit frère Thomas, que vous aviez été adopté vous-même à l'âge de 5 ans et que votre maman biologique était une femme trop jeune pour pouvoir assumer la naissance et l'éducation de deux enfants. Votre maman adoptive, vous avez fini par lui dire que vous alliez partir donc en Colombie. Évidemment, elle a eu le sentiment tout à fait légitime, peut-être l'inquiétude plus d'être dépossédée. Aujourd'hui, on l'a appris maintenant, vous avez rencontré donc votre mère en Colombie. Racontez-nous, parce que dans l'avion, votre frère vous a dit, peut-être tu te rends compte que quand on rentrera, notre vie sera à jamais bouleversée parce qu'on saura d'où l'on vient. Comment ça s'est passé sur place ?
Alors sur place, au début, ça a été super compliqué parce que toutes les administrations, tous les endroits où on allait, on nous fermait les portes en nous disant on peut rien vous donner comme information.
C'est difficile ça. Hein.
Les données en Colombie sont privées, donc c'était non. Et donc mon frère m'a dit, allez, laisse tomber, c'est pas pour ce voyage. On profite du paysage, profite du voyage. Parce que moi, j'étais vraiment partie dans cette quête de recherche. Donc, j'ai vraiment pas lâché. Et 2-3 jours avant notre départ en France, je suis arrivée à rentrer en contact avec un détective privé, sans le savoir, en Colombie, qui, en écrivant un article dans le journal comme le quotidien qu'on peut avoir chez nous. Il a écrit notre quête de recherche en indiquant le peu d'informations qu'on avait. Et donc ça, c'était le lundi. Et le mercredi, donc la veille de notre départ, il m'a contacté sur mon téléphone en indiquant que mon oncle avait répondu à l'annonce qu'il avait écrit sur le journal et qu'il est en contact avec lui. Donc, je vous avoue que quand j'ai eu le message...
Au moment où vous alliez partir, quoi. Oui.
C'est ça. Je n'avais pas réalisé. Je me disais que ce n'était pas possible. Et donc, j'ai regardé mon frère. Je lui ai dit, Thomas, le détective me dit qu'il est en contact avec toute famille. Tout de suite, il était sur la défensive. Ouais. Il m'a dit, non, mais ça se trouve, c'est un mensonge. J'ai dit ça pour l'argent, pour... c'est attention. Donc, au final, on y est allé. Il nous a dit qu'en fait, notre maman a été hospitalisée suite au décès de notre grand-mère qui est décédée le jour où nous, on a atterri en Colombie. Et avec un guide colombien que j'avais au début du voyage, il m'a emmené directement à l'hôpital en question parce qu'il n'avait pas 36 000. Et en plus, cet hôpital, était l'endroit où nous, on était nés. Donc on revenait faire la boucle.
C'est dingue.
La boucle, c'est de notre voyage. Et à l'hôpital, il y a eu 3 heures de négociation pour arriver à rentrer dans le service, mais impossible. Donc je me suis alimentée, j'ai recontacté le détective en lui disant, là on est à l'hôpital, on peut pas rentrer. Et Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, après, elle m'a dit, ah, maintenant, en fait, j'en sais plus. Votre maman, elle est plus dans cet hôpital-là. Elle est dans une annexe parce qu'elle a eu des gros soucis avec la drogue. Et elle est dans un hôpital à Medellin. Alors moi, je me disais, non, mais c'est pas possible. Attends, ça fait 3 heures qu'on attend. Dites-moi, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on se rencontre parce que là, c'est tellement trop. Mais il m'a dit, pas de souci, j'organise un rendez-vous avec vos oncles. Ils vous diront la vérité directement et vous verrez de vous-même.
Bon, alors justement, comment ça s'est passé, cette rencontre avec votre mère biologique?
Là, ça a été la grosse émotion.
Ouais. Oui, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tout de suite, vous l'avez reconnue alors que vous ne la connaissiez pas?
Honnêtement, moi, en fait, j'avais une image d'elle parce que je me souvenais d'elle quand elle avait 15 ans, quand j'étais petite. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, honnêtement, j'ai pas eu ce déclic à me dire « Ah, si c'est elle !» Parce que déjà, ses cheveux, ils ont poussé, elle avait fait une couleur, c'était super belle pour nous. Donc, c'est vrai que j'aurais croisé dans la rue, je pense pas que je l'aurais reconnue. Mais après, il y a eu l'émotion.
Mais oui, justement, qu'est-ce qu'on ressent? Oui, c'est ça.
Et le côté, en fait... On se sent hyper étrangère, ouais, parce que je connais pas cette personne.
Et pourtant.
Et d'un côté, elle m'a mis au monde, c'est cette femme qui...
Et alors justement maintenant, presque 2 ans plus tard,
Maintenant, on se contacte de temps en temps, donc par téléphone.
Ouais.
Donc, petit à petit, on se parle de notre quotidien, de nos ressentis.
Ouais.
Après, on sait qu'on y va petit à petit parce que, comme elle a eu des troubles psychologiques, je ne veux pas non plus la perturber dans son quotidien. Et puis, chacun trouve, son équilibre et sa place.
Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant que vous savez d'où vous venez?
Ah oui, beaucoup mieux.
Ouais.
Beaucoup mieux, oui. C'est le morceau du puzzle qui manquait à ma vie.
Oui.
Et aujourd'hui, je me sens vraiment encore plus forte et plus déterminée à vouloir réussir ma vie et savourer aussi la chance d'avoir eu la vie que j'ai actuellement, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un chaînon manquant dans votre vie, que vous êtes allé chercher vous-même en Colombie, accompagné de Thomas, et aujourd'hui, vous sentez que tout circule tout à fait normalement, hein, et que vous pouvez être, je dirais, au top pour vous accomplir, réussir votre vie et transmettre aussi, j'imagine, à vos enfants.
C'est ça, exactement. Mmh. Une expression que j'aime beaucoup, c'est « sachez d'où vous venez ». Si vous savez d'où vous venez, il n'y a absolument aucune limite à l'endroit où vous pouvez atteindre. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus rien qui
vous arrêtera,
qui me retient, qui m'arrêtera, et que je ferai tout pour pouvoir pour donner une vie meilleure à mes enfants, et que moi aussi je puisse m'accomplir vraiment pleinement et sereinement. Simplement.
Eh bien, je vous remercie, Claire Astrid, de nous avoir raconté cette épopée en Colombie et cette rencontre avec votre mère biologique. Merci beaucoup. On va poursuivre, nous, nos conversations sur l'antenne d'RTL avec Fanny Cohen-Herlem. On se retrouve tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Jusqu'à 15h30 aujourd'hui, on parle de ceux qui mènent un jour l'enquête sur leur propre existence, le début de leur vie. Et notre invitée, c'est Fanny Cohen-Herlem. Bonjour, soyez la bienvenue.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Vous travaillez en protection de l'enfance et sur les problématiques liées à l'adoption. Et j'en profite donc pour citer votre ouvrage, L'adoption en question et les questions des enfants adoptés, aux éditions Pascal. Parce qu'effectivement, ces questions des enfants adoptés, elles sont absolument essentielles. Vous avez entendu le témoignage de Claire Astrid,
oui,
qui nous dit, voilà, moi j'ai été élevée par une famille adoptive, j'avais quelques éléments sur ma vie, je venais de Colombie, j'avais été adoptée à l'âge de 5 ans avec mon petit frère Thomas, mais je ne savais pas plus, et c'est à la faveur de la naissance de mes enfants que j'ai eu besoin de me retourner sur ce passé que je ne connaissais pas. C'est fréquent, ce genre de
initiative? Oui, assez souvent. Écoutez, devenir mère ou devenir père, d'ailleurs, c'est quand même un grand événement dans la vie des individus. Donc c'est là, la plupart du temps, quand on a un peu mis de côté les questions un peu existentielles, que l'on revient sur soi et qu'on se dit, après tout, et moi, comment ça s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et que l'on peut chercher à comprendre. C'est souvent à ce moment-là, ça peut être aussi au moment de grandes modifications dans la vie. Je pense aussi au deuil, ou par exemple au décès des parents. Ça, c'est, donc les gens sont plus âgés. Et ça peut se voir à ce moment-là, ou bien encore, comme d'habitude, à l'adolescence, qui est le moment de tous les tourments et de toutes les transformations.
Et des grandes fragilités.
Absolument.
Aurélie nous écrit, j'ai été adoptée, pour moi le sang ne compte pas, c'est le cœur qui compte. Et Cam nous écrit sur Facebook, eh bien pour certains c'est un besoin, pour d'autres c'est une nécessité. Pour ma part, adopter bébé, j'ai voulu savoir d'où je viens, surtout à l'adolescence, vous venez de le dire. Oui. L'ouverture de mon dossier à la DAS a suffi à stopper net toute nécessité de recherche. Je ne connais que le strict minimum, et c'est bien assez pour moi. Je vis très bien sans en savoir plus. J'ai réussi à me construire ainsi. Certains n'ont pas besoin de savoir, d'autres en ont besoin.
Oui, et moi c'est ça que je trouve très intéressant.
Parce que tout se respecte en fait.
Hein. Absolument. C'est-à-dire que l'injonction qui consiste à dire si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, je trouve que c'est très délétère. C'est une injonction sociale qui ne prend pas du tout en compte les individualités. Or moi je crois qu'on se débrouille avec son passé comme on peut en fonction de ce qu'on est, de comment on a été élevé, des relations qu'on a eues avec ses parents, ses grands-parents et sa famille, et ce qu'on sait de son histoire. Donc effectivement, certaines personnes ont besoin d'aller plus loin, savoir pouvoir mettre un nom, éventuellement un visage, même si c'est pas toujours possible. Pour certains, le fait de connaître le lieu est largement suffisant. Quand c'est l'étranger, c'est de connaître le pays ou la langue. Mais ce n'est pas toujours, parce que quand on dit recherche des origines, on parle de quoi ? Oui. On parle du pays, de la culture, des parents, de naissance. On ne sait pas très bien, en fait. Et c'est à ça que les gens sont confrontés.
Et est-ce qu'on imagine toujours ce à quoi on va être confronté ? Vous venez d'entendre l'histoire de Claire Astrid. On reviendra sur toute la partie détective parce que vous allez donner certaines clés à ceux qui nous écoutent. À l'instar de Sandrine qui nous rejoindra dans un instant. Sandrine qui, elle, cherche à décider d'aller à la recherche donc de ses origines en règle générale. Mais Fanny Cohen-Herlem, vous avez entendu ce témoignage. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans ce genre d'aventure ?
Eh ben, je dirais que la première des choses à savoir, c'est pourquoi on veut.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en attend et qu'est-ce qu'on imagine. Voilà. Et on peut imaginer plein de choses. Et c'est surtout ça qui doit être réfléchi, je dirais, de la part des jeunes adultes qui vont dans cette démarche. Ensuite, il faut faire attention comment on va, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est savoir que l'on peut être déçu, qu'on le peut ne rencontrer personne. Enfin, il y a plein d'histoires qui sont différentes, hein. Ne rencontrer personne, rencontrer quelqu'un qu'on ne veut plus jamais voir, rencontrer quelqu'un qui vous demande plein de choses, se trouver face à quelqu'un où on se dit mais j'ai vraiment rien à faire avec cette personne. Donc il y a beaucoup
oui, ça peut être déceptif, hein.
Ah, totalement.
Voilà, c'est un choc, quoi qu'il arrive, c'est un bouleversement.
Ah, je crois que c'est de toute façon un bouleversement.
Il ne faut pas idéaliser ce moment, quoi.
Non, absolument. Je crois que vraiment, quelle que soit la réponse, c'est forcément un choc.
Est-ce qu'il faut systématiquement avoir l'accord de la famille adoptive ? Certains nous écrivent justement sur Facebook en disant oui, mais effectivement, si les parents ne sont pas d'accord, mais... c'est une histoire personnelle avant tout. J'imagine que tout parent qui adopte doit envisager l'idée qu'un jour, enfant ait envie de...
Oui. Et puis c'est des choses qui sont, je dirais, plus rares, enfin dans ce que je peux voir moi et dans ce que voient un certain nombre de collègues. C'est assez rare que les parents refusent. C'est-à-dire, je pense que ça peut les inquiéter, comme ceux de Claire Astrid, ça peut les remettre en question, mais ils ne peuvent pas refuser. D'ailleurs, quand on a 18 ans, on est majeur, donc on fait ce qu'on veut. C'est bien mieux, j'ai envie de dire, pour les jeunes gens, que leurs parents adoptifs soient d'accord, parce que c'est moins culpabilisant pour eux. Il n'y a pas de conflit de loyauté. Et que les parents se rassurent. Hein.
Oui, ça ne changera rien.
A priori, c'est pas toujours le cas.
C'est-à-dire ?
Eh bien, parfois, quand les jeunes gens vont, ou les jeunes adultes vont à la recherche de leurs parents de naissance, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans leur propre famille adoptive. Donc là, c'est une espèce de, je vais pas dire de revanche, mais de recherche d'un autre idéal, puisque ce à quoi on est confronté ne satisfait pas.
Il faut bien préciser aussi, on en avait parlé il y a quelques années, qu'une adoption, c'est dans les deux sens. Hein.
Tout à fait.
Voilà.
Oui,
c'est-à-dire qu'un enfant adopté peut ne pas adopter sa famille adoptive.
Absolument.
Et peut ne pas s'entendre avec sa famille adoptive, voire regretter même. Hein.
Oui, mais ça, c'est vraiment des choses dont il faut pouvoir parler très tôt et pour lesquelles les parents doivent pouvoir être accompagnés d'emblée. Parce qu'il y a ce dont je parle dans mon livre, qui sont que dit une de mes collègues, les malentendus affectifs qui font qu'on se construit sur quelque chose où on est passé à côté. Et qui suffit parfois d'un tiers pour remettre un peu les choses en place et que les choses redémarrent.
En tout cas, remettre les choses en place, c'est un petit peu ce que demandent tous ceux qui nous écrivent en disant, voilà, moi je veux juste avoir un tableau complet de mon début de vie, hein, parce qu'il manque des pièces du puzzle, comme le disait Claire Astrid.
Absolument.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, on va passer par l'information sur l'antenne d'RTL, puis Sandrine nous rejoindra, et elle va nous parler de ce qu'elle considère comme une vie en pointillé, justement. Oui. C'est pas simple, hein, parfois il y a des
il y a des petits manques,
elle va nous expliquer ce qu'elle a décidé d'entreprendre. À tout de suite sur l'antenne d'RTL, mais pour leur place à l'info.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Ah, c'est génial. Pendant que Stéphane Genest quitte ce studio, on reprend nous le cours de notre émission jusqu'à 15h30. On s'intéresse aujourd'hui à ceux qui un jour décident de mener l'enquête sur leur début de vie. Hein, les personnes adoptées qui décident de partir à la recherche de ce qu'ils appellent leurs origines. Et on le disait en fait, hein, Fanny Cohen, Erlem, il y a un instant, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, spécialiste des questions sur l'adoption pour les parents adoptants et pour les enfants adoptés. On le disait il y a un instant, par origine, on ne sait pas véritablement ce que l'on va trouver. Est-ce qu'on va trouver un pays? Est-ce qu'on va trouver une région? Est-ce qu'on va trouver le nom de quelqu'un? Est-ce qu'on va trouver des bras? Est-ce que l'on va trouver
une histoire?
Une histoire à raconter à nos propres enfants. Comment est-ce qu'on se construit, justement, vous êtes pédopsychiatre, quand il nous manque une partie de notre vie?
Eh bien, je crois qu'on la rêve.
Oui.
Tout simplement. C'est compliqué.
Bien sûr.
Mais je crois qu'on la rêve et qu'on l'invente. Mm-hmm. Et qu'on se la fabrique avec les éléments qu'on a. Et je crois que quand on a, j'ai envie de dire, un entourage, un milieu accueillant, qui va bien, qui vous soutient, je pense que pour un certain nombre de personnes, ça suffit largement.
Voilà, donc ça veut dire aussi que notre manque peut être amoindri, ou en tout cas adouci, par un comportement, je veux dire, chaleureux d'une famille adoptive qui va nous donner des clés. Est-ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui adoptent, à un moment donné, de donner un maximum de clés à l'enfant pour comprendre?
Oui, mais s'ils en ont, effectivement, mais je crois que c'est surtout autour des affects et de la construction de la relation que ça se passe. C'est-à-dire
d'accord,
que,
je comprends. Okay. Pas sur les informations.
Juste un point, parce qu'on a tous une ignorance, j'ai envie de dire, sur notre conception.
Oui, oui, même parfois on a des doutes. Enfin, je veux dire, il y a des moments,
On ne sait pas comment s'est fait la rencontre entre nos parents de naissance. Il y a ce qu'ils nous racontent et puis ce qui s'est passé pour de vrai. Donc, je veux dire, pour les personnes adoptées, c'est du même ordre.
Bien sûr.
Oui, je comprends. Ils ne peuvent pas tout savoir.
Non, mais ils ont des choses en moins, on va dire.
Absolument, voilà. Il y a des choses qu'ils ont le droit de savoir, ce qui est tout à fait différent.
Exactement.
Ils peuvent y accéder ou pas. Et la question, c'est comment faire quand on n'y arrive pas.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a toujours une trace d'une adoption légale.
En principe, oui. Alors maintenant, la Convention de la Haye, c'est quelque chose qui date de 1993, qui suit la Convention internationale des droits de l'enfant. La Convention de la Haye, elle concerne les adoptions nationales et surtout internationales, je veux dire, qui donne un certain nombre de règles pour les pays d'origine et les pays d'accueil. Donc normalement, tous les pays qui ont signé la Convention de la Haye, ratifié et signé la Convention de la Haye, sont soumis à ces règles.
D'accord.
Et donc, a priori, il y a des traces légales.
Voilà. Très bien. Donc, toute personne adoptée, normalement, doit avoir un minimum d'informations, ou en tout cas un dossier, rempli ou vide, mais un dossier. C'est-à-dire, pardon de le dire comme ça, une traçabilité des adoptions en France.
En principe,
enfin, et à l'étranger, mais
à l'étranger, je veux dire. Okay. En France, de toute façon, hein, parce qu'il y a l'aide sociale à l'enfance où il y a les dossiers très très longtemps.
Ok, dans un instant, Sandrine va nous rejoindre. Sandrine, elle va nous expliquer justement ce qu'elle savait et ce qu'elle ignore encore. Merci pour votre patience, Sandrine. Juste après, c'est à vous.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, merci pour votre patience Sandrine. Vous avez 53 ans, vous vivez à Francheville et vous avez passé, alors vous nous avez confié, j'ai passé ma vie à chercher mes origines.
Oui, je continue.
Alors, c'est intéressant parce que parfois il nous faut toute une vie pour avoir des réponses à nos questions. Que vous ont dit vos parents adoptifs?
Alors, mes parents adoptifs m'ont toujours dit que j'étais adoptée.
À quel âge?
J'ai donc été adoptée à 3 mois. Ouais. Et d'autant que je me souvienne, je l'ai toujours su. Donc, dès que j'étais en âge de comprendre, je pense vers 6-7 ans à peu près. Voilà, ça n'a jamais été un tabou à la maison.
Vous en avez voulu à votre mère biologique de...
Oui, j'étais en colère à l'adolescence.
Bah, ça, c'est ce que nous disait Fanny, hein. C'est normal, ça. Hein.
C'était ça, dans un peu de jalousie de, par rapport aux autres enfants, et puis oui, de la colère d'être un deuxième choix, d'être, de ne pas avoir pu susciter l'amour d'une mère.
C'est terrible, hein, de Fanny Cohen-Erlem. Oui. Vous entendez ce que nous dit Sandrine. Oui. Et oui, là, je me dis que c'est une blessure.
C'est une grande blessure. Et en même temps, quand, si je peux me permettre, quand vous dites de ne pas avoir pu susciter l'amour d'une mère, c'est peut-être pas du tout de ça dont il est question.
Oui, c'est ça. Et parfois.
Oui.
Et peut-être qu'elle ne voulait pas d'enfant, qu'elle s'est retrouvée comme ça avec un enfant.
Ça n'a peut-être rien à voir avec l'amour, mais c'est difficile. Bah, parfois, on peut avoir une mère vivante qui nous aime pas non plus, Sandrine. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tous vivre effectivement ce genre de blessure. Mais je comprends. Voilà, c'est douloureux.
Absolument.
Et puis il faut se construire avec ça. C'est la raison pour laquelle très tôt vous avez eu besoin de savoir.
Ah oui. C'était viscéral. J'attendais d'être majeure pour pouvoir effectuer des démarches concrètes.
Donc vous êtes tournée vers des organisations.
Voilà, vers le CNAOP, donc le Conseil national de l'accès aux origines personnelles.
Ouais.
Mais donc j'ai eu aucune réponse concrète, aucune.
Pourquoi ?
Rien qui n'a pu. Soi-disant que mon dossier est vide, qu'il n'y a rien dedans.
Alors,
qui puisse m'aider.
Donc ça veut dire, pardon, mais vous avez donc contacté le CNAOP et en fait on vous a dit oui, on a votre dossier, Sandrine. En revanche, il n'y a aucune information dedans. Oui, non, mais je sais bien. Alors, Fanny Cohen-Erlem, je vais vous donner la parole dans un instant, parce que là, je vous vois partie.
Excusez-moi.
Mais je vous en prie. Donc, en fait, on vous a dit, il n'y a rien. Donc, grosse déception.
Oui, grosse déception. Grosse déception auprès de la maternité où je suis née, qui est une maternité donc, privée, qui n'existe plus. Les archives ont disparu. À l'époque, donc il y a plus de 50 ans, c'était vraiment compliqué d'avoir une légitimité en tant qu'enfant. On écoutait beaucoup les mères.
Alors, donc, ça veut dire que du côté de l'enfant adopté, vous n'avez aucune information. Du côté de la mère biologique, là, vous en avez, puisque vous êtes tournée vers l'œuvre adoptive lyonnaise, c'est ça?
Voilà.
Et là, vous avez trouvé un
procès par l'aide sociale à l'enfance.
Voilà. Et donc là, vous avez obtenu un procès-verbal d'abandon. Parce que le mot est terrible,
ça,
mais
oui.
Voilà. Et là, vous apprenez, vous voyez un prénom.
Voilà, une signature, hein, comme quoi elle renonce à ses droits.
D'accord.
Et donc signée du prénom Marie-Josée.
Alors comment vous l'avez vécu ça, l'apparition de ce prénom?
Ah bah là, c'est très fort, quoi. C'est enfin quelque chose que je peux nommer, que je peux m'approprier.
Ouais.
Et pourtant, c'est peu de choses. Et si ça se trouve, c'est même pas le bon prénom. Puisque là aussi, il y a eu tellement de falsifications.
En fait, on a l'impression, Fanny Cohen-Erlem, parce que
oui.
Là, vous avez réagi, évidemment, en écoutant Sandrine, parce que chaque histoire est unique.
Bien
hein,
sûr.
Mais vous avez déjà réagi quand elle a dit que le dossier était vide au CNAOP.
Oui, parce que de ce que je sais, moi, du fonctionnement du CNAOP, pour les avoir côtoyés, travailler avec eux, normalement, quand on fait une demande au CNAOP, le CNAOP doit chercher avec effectivement le numéro de sécurité sociale, la date de naissance de l'enfant et pas mal d'autres éléments. Il cherche, et souvent, la plupart du temps, il retrouve la mère de naissance et après, ça se fait en deux étapes. C'est-à-dire que le CNAOP envoie sous pli fermé un courrier à la mère de naissance lui demandant si elle est d'accord pour se mettre en relation avec l'enfant.
Encore faut-il savoir de qui il s'agit.
Alors effectivement, c'est le travail du CNAOP que de chercher. Effectivement,
mais pas fait de recherche là pour vous, Sandrine.
Jamais eu ce genre de renseignements, non.
Et vous auriez aimé qu'on vous dise, on va vous aider, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on entend à travers Sandrine, c'est que c'est un parcours du combattant en solitude.
Oui, mais parce que
ça
crois que c'est quelque chose d'assez... Pardon
Vous n'êtes
pas toute jeune,
Sandrine.
C'est pas tout à fait récent, effectivement, et le CNAOP n'est pas si ancien comme structure. Hein. Il doit avoir une vingtaine d'années au maximum, donc effectivement, il y a des choses qui ont pu se passer. Mais avec l'œuvre lyonnaise, vous avez le document, et peut-être vous pourriez retourner auprès du CNAOP avec le document.
Oui, il me semble qu'à l'époque, j'ai envoyé une photocopie de ce document, si je me souviens bien, mais je peux effectivement renouveler
Alors, vous savez ce qu'on va faire, Sandrine ? On va se retrouver dans un instant. Hein ?
Oui. Parce
qu'on va très rapidement, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais revenir sur votre volonté de faire appel à un détective, parce que là, il y a Fanny Cohen-Erlem qui a un truc à vous dire.
D'accord.
Et ensuite, vous avez fait ce fameux test ADN, je l'ai fait aussi.
Oui.
Voilà, et c'est intéressant. Moi, je suis à 70% irlandaise, donc ça m'allait plutôt bien.
Bon.
Vous avez découvert un truc de dingue.
Voilà, c'est ça.
À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Bon, il faut qu'on aille très très vite, Sandrine, parce qu'on est très très en retard. Juste quelque chose, vous voulez faire appel à un détective privé pour éventuellement retrouver celle qui aujourd'hui s'appelle Marie-Josée et qui serait votre mère biologique. Pourquoi un détective privé ?
Eh bien, parce qu'il est spécialisé en généalogie et qu'avec les tests ADN que j'ai faits, on essaye de travailler sur les matchs.
Voilà. Alors, test ADN que vous avez fait, ce fameux test qui ne sont pas autorisés en France, hein, mais que tous les Français font. Et vous avez découvert que 50% de votre ADN venait
du Maghreb, plus précisément d'Algérie.
D'accord, ok. Donc là, ça veut dire que ce sont pour vous des éléments supplémentaires pour entamer vos recherches.
Voilà, et puis c'est une grande satisfaction de savoir que je peux nommer ce pays, par exemple.
Ah ouais, je comprends. Alors, Fanny Cohen-Erlem, quand vous entendez détective privé, alors on n'est pas là pour casser vos objectifs, hein, Sandrine, d'ailleurs chacun fait comme il le veut, comme il l'entend, mais il faut savoir faire montre de prudence.
Moi je dirais que je m'inquiète, je comprends très bien, parce que je l'ai déjà vu ailleurs, hein. Moi je m'inquiète quand même un peu, pas seulement par rapport au coût, parce qu'après tout, chacun fait comme il veut, mais sur la réalité de ce qu'il va trouver. Parce que je crois qu'on n'est jamais certain de ce que l'on trouve. Il peut dire ce qu'il veut, effectivement, et pour vérifier, ça sera hyper compliqué. Il y avait un autre élément que je voulais aborder avec vous et que j'ai déjà été amenée à aborder avec des personnes adoptées, adultes, qui avaient retrouvé leurs parents de naissance, leurs parents biologiques. C'est qu'est-ce que... Je crois qu'on ne peut pas laisser de côté ce que ça peut faire à une mère de naissance que de se retrouver face à l'enfant qu'elle a abandonné. Parce qu'il s'agit effectivement d'un abandon. Souvent, ça leur coûte, c'est au sens psychique et émotionnel. Hein, c'est quand même très douloureux. Mais la rencontre peut ne pas bien se passer et elles peuvent avoir le désir aussi d'avoir tourné la page. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des femmes qui avaient refait leur vie, qui avaient eu d'autres enfants. Et cette rencontre avec cet enfant qui venait comme ça, qui avait été oublié, ben, c'était très, très compliqué pour elles.
Sandrine, est-ce que vous comptez reprendre contact ou vous avez juste besoin de ces éléments pour vous?
Moi, il me semble que j'aimerais aller jusqu'au contact. Je comprends que ça puisse être violent, mais moi, j'ai besoin aussi d'avancer. Puis, je ne cherche pas une maman.
Oui.
J'en ai une, hein. J'ai une maman qui m'a élevée, qui m'aime, mais j'ai besoin de connaître mon histoire, de qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme m'abandonne. Après, elle n'aura peut-être pas envie de me répondre ou d'entrer en contact avec moi, mais au moins, si je peux avoir des éléments, si c'est une lettre, bah, ce sera une lettre.
Oui, vous avez besoin en tout cas de clés, ce qu'on peut comprendre à un moment donné.
Bien sûr.
Je comprends tout à fait, vous avez besoin de certaines clés et certaines réponses à des questions que vous vous posez, pour vous comme j'imagine aussi pour vos enfants et pour la suite. En tout cas, je vous remercie Sandrine de nous avoir accordé du temps. Je vous souhaite le meilleur à vous et à vos proches. Et je me permets de vous embrasser. Voilà,
merci
à vous Sandrine. À bientôt sur RTL. Fanny Cohen-Erlem, c'est vrai que là, ce que vous venez de souligner, c'est une des grandes difficultés. Alors, on n'aura pas le temps forcément de le développer, mais c'est que, bien évidemment, pour un enfant, c'est difficile de se construire. Mais est-ce que les femmes, on les appelle les mères de l'ombre, les femmes qui ont été dans l'obligation d'abandonner leur enfant, ces femmes-là ne sont pas exemptes de douleur et de chagrin par ailleurs?
Mais je pense qu'il faut toujours le penser comme ça.
Oui.
Je pense que c'est important. Lorsqu'on appelait les mères de l'ombre, celles qui voulaient à tout prix avoir savoir où étaient leurs enfants et n'y arrivaient pas. Mais je crois qu'on ne doit jamais oublier les mères de naissance. Il y a aussi les pères de naissance dont on ne parle jamais, qui sont les grands oubliés
fou,
et qui parfois existent quand même. Enfin, en tout cas, ils sont là. Et je crois que quand on part à la recherche de ses origines, je crois que vraiment, il faut se mettre à sa place, mais aussi à la place de l'autre.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé du temps, Fanny Cohen-Herlem. Merci. Je conseille votre livre, L'adoption en question et les questions des enfants adoptés. C'est aux éditions Pascal. Merci, merci et bon vent à vous. Un grand merci également à Morgane Sermadiras qui a passé un mois dans notre équipe. Plein de bonnes choses pour toi Morgane. Merci pour ton super boulot. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous demain sur l'antenne d'RTL dès 14h30 pour l'avant-dernière émission d'En effet pour s'entendre. Allez, je vous embrasse. À demain.
Flavie Flamand sur RTL.